Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
Vous êtes bien sûr RMC, le retour des grandes gueules du sport dominical. Okay. On est en direct jusqu'à midi en compagnie aujourd'hui de Sarah Pitkowski, Marie Martineau, Pascal Duprat, Christophe Cessieux. À 10h30, à la punchline de Benoît Cosnefroy, le coureur français, pense qu'on peut battre Mathieu Van Der Poel dans les courses d'un jour, ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est l'Amstel Gold Race, on en parle d'ici une vingtaine de minutes. Et puis, jusqu'à 11h40, vous jouez, on vous fait gagner des places sur RMC, puisque mercredi prochain, vous le savez, nous serons à quasiment 100 jours des Jeux Olympiques de Paris. On vous offre donc 100 places sur RMC. Non, mais mercredi, on sera à 100 jours, pardonnez-moi. C'est demain, on sera à 102, voilà, je crois. Voilà, je vais apprendre à compter également dès aujourd'hui. Donc, et depuis hier, dans chaque émission de RMC, vous pouvez remporter 2 places pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques, cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table, natation, 4x4 nage, bien plus encore. Pour cela, pour tenter votre chance, vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Alors avec ou sans espace entre Paris et 2024, vous faites bien comme vous voulez. Paris 2024 au 7-32-16. Le tirage au sort et le passage à l'antenne du ou de la gagnante à 11h40. Bonne chance à tous, c'est un immense cadeau que vous fait la maison, évidemment, radio officielle des Jeux de Paris 2024. En attendant, les combattants montent sur le ring. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Vous vous souvenez certainement de cette promotion de l'arbitrage dans les années 90, dans le foot. C'était censé faire naître des vocations, renforcer le respect des joueurs envers les arbitres. Désormais, ce serait plutôt, on n'a pas bien vu, on va demander à la machine de nous dire ce qui s'est passé. Le hockey en tennis, la VAR dans le football, la vidéo en général dans le rugby, sans parler des sports américains, plus aucune discipline ne fait l'économie de la technologie pour aider l'homme à faire respecter la règle sur les terrains de sport. Alors, au-delà de l'universalité du sport rompu entre les pratiquants amateurs et professionnels, la question de son utilité est régulièrement soulevée en compétition par des contestations et autres polémiques. La question de ses conséquences également sur l'œil humain et ses décisions. Un débat qui n'est pas prêt d'en finir, c'est pas une raison pour l'éviter, c'est pas le genre des GG. Alors, dans le coin droit, figurez-vous qu'ils pensent que la technologie ne va pas tuer l'arbitrage. Ils sont nombreux, Marie Martineau, Sarah Pitkowski, tiens donc, et Pascal Duprat. Dans le coin gauche.
Les sportifs, quoi.
Dans le coin gauche, ils pensent.
Et dans le coin gauche, le buveur de bière.
Ils pensent au contraire que la technologie va tuer l'arbitrage. Le courageux Christophe Cessieux. C'est parti pour le bras de fer des GG.
RMC. Le bras de fer GG.
They don't know how to referee anymore. Who will take action?
Ils ne savent plus comment arbitrer. Qui fera bouger les choses? Qui prendra ses responsabilités? Ce n'est pas à moi d'arbitrer les matchs. C'est lui avec ses lunettes. Il n'a pas besoin de lunettes car il ne voit rien. Il ne devrait pas être arbitre. C'est devant ses yeux, la balle va doucement. C'est un mauvais arbitre. Il devrait être mis à l'écart.
He's a bad referee. He should be out of the referee circle.
La merveilleuse petite prod, comme on dit dans notre jargon, de Kylian Vérov, notre producteur, du coup, évidemment, c'est un métier. Je disais, c'est parti, c'est presque parti pour le bras de fer, puisqu'avant de vous laisser vous écharper, on va accueillir Eric Salio, notre spécialiste tennis de la rédaction RMC Sport. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Salut
Eric.
Merci de passer une petite tête, il fait beau à Monte-Carlo, Eric.
Il fait un temps merveilleux et au moment où je vous parle, il y a la finale du tournoi journaliste. Donc vous avez compris que je suis pensé.
Éliminé en demi au bout d'un match fou.
Éliminé à cause d'une erreur d'arbitrage. Vous le croyez ça?
Encore. Ah là là. T'es plutôt revers délié long de ligne ou tennis pourcentage, Salio?
Je sais tout faire.
Ouais. Le magicien. La main, on t'appelle.
Demande à Sarah.
Bien sûr, on va en parler. On vient d'entendre.
En double.
Alors, on vient d'entendre Daniil Medvedev cette semaine. Il a coutume de râler, évidemment. Eric, tu vas nous le confirmer. Mais bon, c'est un nouvel exemple. Il y en a eu plusieurs de joueurs insupportés ces derniers temps par ce qu'ils considèrent être un arbitrage un petit peu médiocre. On va pas se cacher.
Non, mais c'est vrai que depuis quelques mois, on était habitué aux annonces électroniques adoptées sur la plupart des tournois. Mais le retour sur la terre battue monégasque nous a ramené les contestations, les fights, joueurs-arbitres. Comme par hasard, Daniil Medvedev et Holger Rune ont été victimes d'erreurs d'arbitrage. Ça anime les rencontres et ça n'a pas eu d'impact sur le match. En revanche, hier, une énorme double faute de Tsitsipas a été oubliée à la fois par un juge de ligne et l'arbitre de chaise. Sinner aurait dû mener 4-1 au troisième et foncer vers la finale. Son cerveau troublé lui a fait venir des crampes et le grec s'en est sorti par miracle. Alors avec Medvedev, vous imaginez bien que la conférence de presse, ça, bah, elle aurait monté dans les tours. Mais l'Italien, lui, a affiché une zénitude assez incroyable.
Non è il mio lavoro.
Ce n'est pas mon job de juger. Disons que la position de l'arbitre était pourtant idéale. La ligne à juger est la plus simple. Maintenant, il faut l'accepter. C'est ainsi. C'était un match important. Les choses ne vont pas toujours comme on le veut. Je vais le prendre avec le sourire. Demain, il y aura une belle finale sur le central et je serai à la maison.
Ouais, bon, enfin, La situation est néanmoins brûlante. Souvenez-vous, à Dubaï, de la disqualification de Rublev, qui avait injurié un juge de ligne. Stefanos Tsitsipas, qui est pour la paix des ménages, se prononce aussi pour la disparition du jugement humain.
Moins de drame, c'est certain. Cela permettra au jeu d'être plus propre et d'éviter les erreurs et les crises de colère comme celles que nous avons vues en début de semaine sur le court central. Oui, le tennis mérite des drames, mais je pense qu'il devrait se dérouler sur le court de tennis avec des performances plutôt que des jurons et des cris. Ce n'est pas une belle facette du sport.
Alors, en principe, on ne verra plus ces scènes l'an prochain. L'ATP a décidé d'appliquer en 2025 l'Electronic Line Calling Live sur tous ses tournois. En revanche, Roland Garros devra prendre une décision cruciale. Et quand on connaît l'importance de la tradition de l'arbitrage en France, je souhaite bon courage à Gilles Moreton.
Merci beaucoup, Eric. En effet, il aura du boulot. Tu restes avec nous, évidemment, si tu le souhaites, pour ce débat. Pour l'instant, Christophe Cessieux, je disais courageux. Bon, la tendance est derrière toi. Le peuple est derrière toi, Christophe. Le peuple des auditeurs de RMC, 67% des sondés pensent que la technologie est en train de tuer.
Elles sont capables de s'offusquer contre des erreurs d'arbitrage et de venir parler dans tous les talks d'RMC pour dire qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage, que ce soit en foot ou en rugby.
Justement, tu gardes la main, Sarah, puisque tu es dans la team qui a du retard à combler. 33% des auditeurs qui ont voté pensent que la technologie ne va pas tuer l'arbitrage. Garde la main, explique-nous
pourquoi.
Alors
moi, je vais vous expliquer une petite chose. Alors, je pense que Pascal et Marie seront d'accord avec moi. La situation la plus délicate pour un sportif, c'est une forme d'injustice. C'est-à-dire que le sportif est dans une insécurité. Qu'est-ce qui cadre le sport ? Ce sont des règles. Donc c'est soit un chronomètre, c'est soit des juges, et c'est soit aussi une interprétation d'une situation. Et donc c'est ces trois choses-là qui font qu'à un moment, un sportif peut se sentir en fragilité dans sa performance. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, en 2024... On a mis de la technologie, parce que le monde évolue, on a mis de la technologie qui rassure un sportif, qui à un moment, un athlète, sait qu'il va y avoir un jugement qui est proche de la perfection. Et vous voulez nous dire, proche de la perfection, il y a des interprétations. Donc en fait, cette situation, elle est là aussi pour rassurer un sportif. Et à partir du moment où on nous dit aujourd'hui, ben non, en fait, la technologie, elle va tuer le sport, on va enlever la technologie et on va revenir en arrière, tu vas refragiliser la construction d'un sportif à un moment ou un autre dans son entraînement. Donc, je ne vois pas comment aujourd'hui ça peut tuer le sport. En revanche, ça modifie le déroulement. Parce que tu as des laps de temps quand tu dois vérifier des choses, que ce soit la VAR, que ce soit un arbitrage vidéo, que ce soit de faire appel à la vidéo, que ce soit en escrime où on doit revoir encore la vidéo. Là, en fait,
ça casse le rythme. C'est
exactement.
Ce que tu veux dire,
là, en revanche, ça modifie le déroulement d'une compétition, mais ça va pas tuer le sport. Ça va modifier son déroulement.
Ça va pas tuer le sport. Le débat, c'est est-ce que ça va tuer l'arbitrage?
Au contraire, ça l'encourage.
Ça le renforce. Pour moi, ça le renforce en fait.
Ça sécurise
des joueurs qui sont sur un carré vert et qui sont capables limite de se mettre sur la tête, sur la tronche, parce que il n'y a pas eu un coup de sifflet qu'il fallait.
Donc en fait,
et à un moment, ça
si
doit faire
écoute,
descendre la pression.
Si on vous écoute, il faudrait à terme que l'intelligence artificielle règle tout ce qui se passe sur un terrain.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus
d'arbitre. Mais aujourd'hui,
dans les faits, c'est un peu ce qui se passe.
Aujourd'hui,
les arbitres ne prennent plus aucune décision de par eux-mêmes. Ils s'appuient sur la technologie, que ce soit en tennis, que ce soit en rugby.
Non, mais ils interprètent quand même. Hein, en rugby, ils interprètent.
Ils attendent d'avoir. L'arbitre ne fait plus vraiment son travail.
Aussi.
Il attend d'avoir 15 vues de différents angles de caméra pour prendre une décision.
On n'est plus capable d'accepter le jugement humain. On n'est plus capable d'accepter le jugement humain.
Est-ce qu'il est toujours aussi bon qu'avant le jugement humain maintenant qu'on sait qu'on a la technologie?
Mais oui, il est aussi bon. Il y a forcément une marge d'erreur. Il est toujours aussi l'accepter. Mais grâce à la vidéo, tu peux te rendre compte mieux. Et même nous, les premiers juges, c'est qui? C'est nous dans le canapé. Oui. Et on fait quoi quand il y a une action un peu litigieuse sur un match? On attend de voir le ralenti parce qu'on veut revoir, parce qu'on n'est pas sûr non plus d'avoir.
Mais aujourd'hui, justement, de par cette position, les gens sont beaucoup plus intransigeants avec les arbitres parce qu'on estime que les arbitres ont droit à toutes les technologies.
Et les gens qui regardent les spectateurs.
On s'en fout du spectateur. Regarde ce qu'a dit Medvedev cette semaine, là, il s'en prend à l'arbitre.
Il est sur le terrain, tu as raison, d'une violence incroyable. Medvedev,
si je peux me permettre,
là, c'est n'importe quoi, là, hein, franchement.
Christophe, tu es un ancien comme moi, donc je ne veux pas trahir ton âge, mais comment dire, ce que Medvedev fait, d'autres avant lui l'ont fait, oui, et d'autres après le feront. C'est pas la technologie qui fait qu'il y a des joueurs qui pètent les plombs, quel que soit le sport.
Non, mais je trouve
d'accord
que
là-dessus.
La technologie, en revanche, du fait que on se base quasiment tout le temps sur la technologie, lorsqu'elle n'est plus vraiment là, et c'est le cas sur les terrains en terre battue, et ben les arbitres sont paumés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'œil, ils n'ont plus le réflexe, parce que tout ce qui se sollicite évidemment permet de progresser. Là,
la
finalement,
technologie
on
les déresponsabilise. C'est ce que tu veux dire.
Oui, exactement.
Je suis pas d'accord avec toi. Pardon. Je vais prendre l'exemple du sport qui m'est cher, du football. Depuis l'apparition de la VAR, les erreurs sont moins flagrantes, moins nombreuses.
Mais les polémiques sont plus nombreuses en revanche.
Tout au long, mais la polémique, ça, on peut y revenir. Ouais. Ça n'empêchera pas la polémique. Ouais. Pourquoi? Parce que celui qui juge in fine la technologie, c'est encore un homme. Celui qui dit il y a pénalty ou il y a pas, il a vu des images, il est dans son bus, et il regarde des images et il va donner après en fonction des images.
De temps en temps, mais pas toujours.
Chose que l'arbitre n'a pas, et vient donner son jugement. Bah, c'est toujours l'homme qui, à l'appui de la technologie, va donner, une décision. Mais ça limite l'erreur, mais l'erreur, elle est humaine, donc elle existera toujours.
Pour revenir
aux arbitres du football, c'est pas vrai ce que tu dis. Ils sont en perpétuel jugement, les arbitres. C'est quand, justement, dans le bus, ils pensent qu'il y a une erreur commise par l'arbitre qu'il le sonne, en fait. Et qui lui demande et qui l'invite à venir voir les images pour le déjuger en quelque sorte. Donc, je pense pas qu'en tout cas au football, les arbitres soient déresponsabilisés. Par contre, il faudrait qu'ils uniformisent leurs décisions. Et ça, c'est plus difficile à faire en fonction des équipes qu'ils arbitrent, quoi que tu en dises.
Aujourd'hui,
Paris Saint-Germain est mieux arbitré que le dernier.
Je suis persuadé aujourd'hui que les arbitres qui évoluent dans les petites divisions sont de meilleurs arbitres, ont de meilleurs yeux et de meilleurs
Mais toi, tu prônes la déresponsabilisation de l'arbitre, c'est ce que tu veux nous dire.
C'est pas que je prône, c'est que j'ai peur. Et j'ai peur que demain, vu l'ampleur que ça prend, que demain, tous les sports soient jugés par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les actions des hommes soient jugées par les machines.
On
n'en est pas là, mais on va vite y venir.
Je reprends la main.
L'intelligence artificielle, je sais pas si t'as un peu 1000 dés dedans, mais ça va à une vitesse hallucinante.
Je reprends la main, s'il vous plaît.
Ta descente par une machine qui dira Martino, troisième et pas deuxième.
Elle s'est dissipée ce matin, les
gars. Mais oui, on est là pour débattre. Vous n'êtes pas les seuls.
Si j'ai perdu l'habitude de débattre, je vais convier. Voilà. Quelqu'un qui va apporter son expertise à ce débat.
Monsieur Ia.
Un ancien arbitre international. Je vais me prendre pour Michel Drey. Voilà, je vous présente Bruno Rebeu, qui a fait le 32-16, ancien arbitre international de tennis. Premier arbitre français à avoir arbitré, sauf erreur de ma part, 10 finales d'affilée à Roland-Garros. Bonjour Bruno, merci d'avoir fait le 32-16.
Bonjour, merci. Bonjour, salut, bonjour Bruno. Sarah et bonjour toute l'équipe.
Mais Bruno, il n'avait pas besoin de 15 machines pour dire que la balle était faute.
Justement, c'est la question que je m'apprête à lui poser, Bruno. Vous officiez lorsque le Hawkeye, l'intelligence artificielle, la vidéo, l'assistance technologique a été introduite. Comment vous aviez accueilli cette innovation et est-ce que vous trouvez qu'elle a fait du bien au tennis et à l'arbitrage?
Alors, pas du tout. Moi, je n'ai jamais arbitré avec le Hawkeye. Vous voyez, je suis beaucoup plus
ancien. C'est arrivé après votre retraite. Bon.
Mais non, moi, j'ai jamais arbitré avec le Hawkeye. Alors, c'est vrai que cette nouvelle technologie est venue. Donc, je vais pas faire le vieux con, comme on dit. Mais oui, ça a apporté une certaine sérénité. Moi, aujourd'hui, je vous ai tous écouté tout à l'heure. Vous avez tous dit pas mal de vérités. Mais je crois qu'aujourd'hui, les arbitres qui donc officient en ce moment, ceux qui étaient à Monte-Carlo et qui sont cette semaine à Monte-Carlo et tous les autres que je connais très bien, ce sont d'excellents arbitres, de très très bons arbitres. Simplement, ces arbitres-là n'arbitrent plus depuis de nombreuses années. Maintenant, ils sont retranchés derrière la technologie et ils ont de moins en moins de réflexes parce qu'ils n'arbitrent plus. Il faut simplement le dire. Maintenant, il y a pratiquement plus de juges de ligne. Il y a le Hawkeye partout, donc du jour au lendemain où ils doivent se mettre sur un court où ils n'ont pas de Hawkeye, où il y a de la terre battue, vous savez, l'œil est un muscle et si donc on ne sait pas travailler tout le temps, au bout d'un moment on manque donc de certains réflexes. Alors enfin, je dirais aujourd'hui soit donc on supprime complètement l'arbitrage et on passe à l'électronique, pourquoi pas, allons-y. Soit, mais je pense que de rester entre les deux, il faut pas le faire. Il y a aussi une autre chose quand on dit que l'électronique va tuer l'arbitrage, ça va peut-être pas le tuer au haut niveau parce que on aura de l'arbitrage électronique sur tous les grands tournois. Simplement, il faut pas oublier que là,
ça va créer un fossé entre
là à l'heure actuelle où on se parle, il y a des dizaines de milliers de matchs qui se jouent dans toutes les villes de France, des matchs des championnats par équipe, etc. où ils ont absolument besoin d'arbitres parce qu'ils n'auront jamais le Hawkeye. Et n'oublions pas que tous les arbitres qui officient donc à Monte-Carlo, qui officient au Grand Prix de tennis de Lyon, qui officient à Roland-Garros, etc., tous ces arbitres-là sont sélectionnés parce qu'ils ont tous une activité tout au long de l'année et qui vont donc arbitrer dans les petits clubs pour justement passer après 8 jours à Monte-Carlo ou 15 jours à Roland-Garros. Si demain, il n'y a plus d'arbitres sur ces grands tournois, oui. Est-ce que les arbitres de tous les jours vont vouloir arbitrer dans les petits clubs le dimanche matin dans une salle qui n'est pas chauffée, donc en plein hiver, pour arbitrer deux joueurs de troisième série ou de deuxième série? Je pense pas s'il n'y a plus cette carotte, je suis un peu inquiet pour l'avenir de l'arbitrage français, voire même donc à l'étranger. Donc est-ce qu'il faut complètement supprimer l'arbitrage? J'en sais rien. Oui, peut-être, parce que comme Sarah le dit, les joueurs de tennis s'entraînent toute leur vie pour mettre une balle sur la ligne et quand elle est jugée à l'inverse, c'est sûr que ça les met donc dans des colères. Mais il faut faire attention aussi à ce qu'on fait parce que l'arbitrage va complètement disparaître. Et moi, il y a quand même 95% des arbitres qui vont arbitrer à Roland-Garros. Ils sont donc des arbitres amateurs qui arbitrent toute l'année dans les ligues, dans les clubs, pour justement avoir cette carotte et arbitrer les grands tournois. Il n'y a plus de juge de ligne à Monte-Carlo. Que va devenir l'arbitrage en France?
Bruno Rebeu, ancien arbitre international, légende de l'arbitrage dans le tennis français. Je précise à nos auditeurs, hein, avant de me faire ridiculiser sur les réseaux sociaux, vous avez composé le 32-16 comme un auditeur. Hein. Vous êtes descendu de votre chaise, vous nous avez appelé parce que vous souhaitiez participer à ce débat et c'est passionnant de vous entendre. Vous soulevez un point qui, je le pense, hein, est fondamental, c'est la rupture, je le disais dans l'intro, de l'universalité du sport entre la pratique amateur dans les clubs du dimanche. Bon, bah, s'il y a litige, on se met sur la tronche, on peut pas, y a pas le Hawkeye qui nous dit elle était dehors, elle est pas dehors.
C'est semi-amateur. Parce que, effectivement, t'as le amateur. Et tu as effectivement des championnats qui sont semi-professionnels.
Mais ce qu'il dit sur la carotte, ça m'inquiète un peu quand même. Ce qu'il dit sur la carotte de OK, il y a des gens qui sont prêts à aller arbitrer des matchs, des petits matchs, parce que derrière, ils savent qu'ils seront placés sur des plus gros matchs et que c'est ça qui les intéresse. Moi, ça me fait flipper. Hein.
Pourquoi
Parce que, heureusement que, pour faire un petit parallèle avec ce que je connais, et le ski, heureusement qu'il y a des gens qui se forment et qui sont OK d'aller juger des petites Coupes de France ou même des Coupes d'Europe avant, sans avoir forcément en tête d'aller faire des
matchs. En fait, effectivement, les gens. quand tu fais de la promotion pour l'arbitrage, donc dans une fédération, dans notre fédération, en fait, quand tu es licencié, on te propose aussi des formations d'arbitrage parce que les enfants, entre eux, peuvent s'arbitrer sur des matchs. Et puis après, tu as des adultes qui s'y mettent. Et le fait de vouloir monter en compétences parce que tu as des différents badges,
oui.
Et de savoir que peut-être un jour, en investissement des week-ends, la récompense ultime pourrait être de se dire je vais aller sur une chaise à Roland-Garros, reste quelque chose de motivant parce que tu pourrais dire attendez, moi j'ai communion ce week-end,
j'ai le baptême de tous le week-end, les sports, j'ai ma... oui. Tout le monde n'a pas Roland-Garros, c'est le cas de tous les sports pour ça, et de tous les
gens. On est d'accord, mais donc
qui
c'est pour ça que. C'est pour ça que Bruno mettait le doigt sur le fait attention à cette pyramide qui, à un moment, pourrait être fragilisée.
Ça, c'est propre au tennis.
Parce qu'il y a une belle récompense. Et tout le monde n'y va pas, on est bien d'accord.
Allez, Pascal, rapidement le mot de la fin.
Oui, est-ce que décemment, vous croyez que l'arbitrage, comment dire, humain va disparaître?
Mais non, mais clairement.
Arrêtez de rêver, s'il vous plaît. Arrêtons.
Voyons. De rêver ou de...
Arrêtez le catastrophisme.
De rêver ou de cauchemarder.
Voilà. Merci. Non, mais Bastien. Franchement, arrêtons. Bah, arrêtons.
Les juges de ligue,
Christophe, retrouve la raison, s'il te plaît.
Disparaître, en tout cas. Bon, je remercie Bruno Rebeu, ancien arbitre international, d'avoir fait le 32-16 et d'être venu nous éclairer sur ce débat. On est très honorés que vous ayez pris cette peine ce matin. Bruno, merci beaucoup. Et quand vous voulez, sur RMC, je ne sais pas si Bruno m'entend.
Merci, c'est gentil, bonne journée et vive donc le tennis et vive l'arbitrage.
Voilà. Et vive le Masters,
vive
Bruno.
Le sport sur,
et vive Nice.
Et vive le Masters, évidemment, on parle de...
golf.
De golf, évidemment. Merci beaucoup.
Oui, bien sûr.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup, Eric. Eric Salio, qu'on retrouvera au commentaire de la finale de Monte-Carlo. Attention au coup de soleil, Eric. Hein, non, pas de problème.
C'est marrant parce qu'au moment où Bruno est intervenu, il y avait les juges de ligne qui ont fait une photo souvenir sur le cours central.
Ah,
et je me demande s'ils savent s'ils reviendront l'an prochain.
Et voilà. Et ben, oui. Ben non, ils ne reviendront pas. Et donc, c'est bien.
À ce niveau-là, c'est
petit à petit, la fin de l'arbitrage. Bon, on vient les arbitres des terrains de jeu.
Un truc très important. Et j'espère que Gilles Moreton va garder les juges de ligne à Roland. J'espère.
Il serait bien à terme.
C'est la mort d'une chose.
Et surtout, on aime, c'est de virer les entraîneurs.
On aime se balayer les juges de ligne, ces gestes pour dire elle est dedans, elle est dehors et tout. Cette chorégraphie. Merci beaucoup.
On aime bien,
Eric, on se retrouve pour la finale.
Font du cours
rude Tsitsipas et non pas Djokovic Sinner. On en reparlera un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Eric. À tout à l'heure sur l'antenne de RMC. Les grandes gueules du sport reviennent dans un instant. Ce sera l'heure d'expertiser la punchline de la semaine. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
Vous êtes bien sûr RMC, 10h32, les grandes gueules du sport dominical. On dirige jusqu'à midi en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Christophe Cessieux. Dans un quart d'heure, le zapping des grandes gueules. On s'en fout pas avec notamment le retour de Raphaël Nadal. C'est confirmé sur les courses. Ce sera pour le tournoi de Barcelone, vous nous direz si cela vous intéresse. Mais pour l'instant, on tend le micro et les oreilles.
RMC. La punchline GG.
Sur Paris-Roubaix, Van Der Poel a une équipe exceptionnelle. Mais c'est une course très plate, alors que l'Amstel Gold Race est un peu moins facile à maîtriser. Je me dis que c'est possible. Quand Mathieu est là, il est beaucoup regardé et cela peut être plus facile pour un coureur à côté de s'exprimer.
Alors, cette punchline rapportée par notre copine Siri sort de la bouche de Benoît Cosnefroy, le récent vainqueur de la Flèche Brabançonne, coureur pour l'équipe Décathlon AG2R, la mondiale, pense donc, vous l'avez entendu, que Mathieu Van Der Poel n'est pas imbattable, en tout cas pas sur toutes les courses d'un jour. Aujourd'hui, au programme, c'est l'Amstel Gold Race, dont vous ne manquerez rien sur RMC. Avant ça, un tour de table, est-ce que vous êtes, oui ou non, d'accord avec Benoît Cosnefroy, Van Der Poel imbattable, oui ou non, sur les courses d'un jour? Marie Martineau.
Alors, si c'est la question, c'est Van Der Poel imbattable, non. Par contre, si c'est la question Cosnefroy a-t-il raison de croire qu'il peut le battre, là je te dis oui.
Donc c'est un oui. C'est un oui. Hein. Sarah Pitkowski, oui ou non?
Pour éviter de partir dans une sorte de mélasse, tout comme Marie.
C'est un oui. Hein, j'ai saigné du nez là, le temps de comprendre. Christophe, c'est sûr.
Tu me demandes si Van Der Poel est battable pour Cosnefroy ou si Cosnefroy peut l'emporter, en fait. Parce que j'ai pas bien compris ta question.
Non, Benoît Cosnefroy ne sous-entend pas qu'il va gagner, il sous-entend que quelqu'un d'autre peut gagner.
Je dis qu'il est possible de battre Van Der Poel sur cette course.
Et oui aussi, Pascal Duprat, un espoir.
Si la question est Cosnefroy est-il ambitieux, c'est oui, il a raison.
Bon, mais tout le monde est d'accord. Bon, je vous disais que vous ne manquerez rien de l'Amstel Gold Race, nouvelle étape de la saison des classiques sur l'antenne de RMC comme d'habitude, grâce à notre poisson pilote maison, Arnaud Souk, qui commentera la course à l'antenne et qui est sur place. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Hello.
Salut Arnaud.
Arnaud, depuis, n'en déplaise à nos grandes gueules du sport, depuis son titre de champion du monde à Glasgow la saison dernière, on peut quand même dire qu'il y a Van der Poel d'un côté et tous les autres de l'autre. Hein.
Oui, et c'est particulièrement vrai cette saison, en tout cas sur les classiques. En 5 jours de course, Mathieu Van Der Poel s'est déjà imposé à 3 reprises et s'il a joué le rôle d'équipier pour son sprinter Jasper Philipsen sur Milan-San Remo, sa campagne de classique flandrienne a été presque parfaite, battue seulement au sprint par le Danois Pedersen lors de Gent-Wevelgem. Il a ensuite réalisé un sans faute sur le reste des courses où il s'est aligné, signant des solos absolument magistraux sur le Grand Prix E3, sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix dimanche dernier. Du coup, c'est vrai qu'on voit mal aujourd'hui hein, qui pourrait mettre en difficulté le néerlandais sur l'Amstel Gold Race. Il a d'ailleurs avoué en fin de semaine, dans un communiqué de son équipe Alpecin de Koenig, ça va faire cliché, mais je n'ai même pas regardé la start list. Je ne sais même pas qui est au départ. Alors la réponse, s'il nous écoute, Mathieu Van Der Poel, la voici. Une poignée d'outsiders très loin derrière lui dans les pronostics des bookmakers. Le Britannique Thomas Pidcock, l'Américain Matteo Jorgensen, l'Espagnol Juan Ayuso sont autant de raisons de croire à une course un peu folle, à moins que les Français Benoît Cosneuf, Romain Grégoire ou Valentin Madouas ne viennent aussi se mêler à la lutte. Une particularité quand même sur ce circuit de l'Amstel Gold Race, ça tourne côte dans tous les sens, ce sont des routes vraiment très étroites, il y a énormément de virages, c'est une course qui est très très difficile à maîtriser. Et une dernière chose, si jamais Mathieu Van Der Poel venait à s'imposer aujourd'hui, il réaliserait un triplé absolument inédit dans l'histoire du vélo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Amstel Gold Race.
Et ben voilà, il y a un bel objectif pour le Néerlandais. Merci beaucoup Arnaud, tu seras au commentaire de cette course et tu peux rester avec nous pour ce débat si tu veux mordre les jarrets de l'une de nos grandes gueules, si tu entends quelque chose qui te déplaît ou que tu souhaites corriger. Je me tourne vers Christophe. Christophe, on partage, toi et moi, et comme de nombreuses grandes gueules, l'amour pour la chose cycliste. Si j'avais été en face de toi, je crois que j'aurais défendu la victoire de Van Der Poel. Moi, je le vois bien gagner sur un circuit, oui, dans une course où il s'était, souvenons-nous, révélé en 2019 avec le maillot de champion des Pays-Bas sur le dos. Victoire.
Il est évidemment le favori. Évidemment. Non, mais tu veux dire, tu peux pas, parce que Arnaud parlait d'un triplé. Il est même sur un quadruplé, 4 dimanches d'affilée, puisqu'il y avait eu le Grand Prix E3 avant. Et peut-être sur
c'est pas un dimanche le Grand Prix E3.
C'était pas un dimanche. C'était quoi,
c'est un vendredi.
Ouais, d'accord.
Merci Arnaud.
Le quadruplé s'arrêtait s'il avait gagné Gambé.
Merci Arnaud direct.
4 week-ends.
Il a sauté dans l'arbre.
C'est vrai qu'il s'est fait.
Non, parce que le quadruplé. Oui, voilà.
Bon, en tout cas, il a que 5 courses ou 6 courses depuis le début de la saison. Il en a gagné 5. Les 5, voilà. Il est tout simplement énorme. Et évidemment qu'il fait figure de favori pour cette course. Mais moi, je suis content d'entendre un coureur français de se dire qu'il est capable de le faire. La semaine dernière, au départ de Paris-Roubaix, t'en as pas un qui le disait. Hein. T'avais rien, t'avais personne. C'était, ça mouffetait pas. Toute façon, ils partaient tous à l'abattoir
dans la
tranchée d'Arambert, dans la chicane et dans le vélodrome de Roubaix. Là, ils se disent, et notamment Cosnefroy qui est dans une forme, qui est dans la forme de sa vie, qui a bien failli gagner cette course en 2022. Il avait été battu d'un rien par Michał Kwiatkowski au sprint. C'est une course qui lui convient parfaitement. Il est dans la forme de sa vie. Et si ce mec-là ne se dit pas, je peux battre Van Der Poel, alors franchement, autant laisser Van Der Poel partir tout seul ce matin et on fera les comptes à l'arrivée. Je veux dire, heureusement qu'il y a des mecs encore un peu ambitieux et qui se disent, ben voilà, je peux le battre. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a plus de possibilités pour un Cosnefroy de battre Van Der Poel qu'il y avait de possibilités de voir un Pedersen ou un Philipsen qui étaient ses seuls rivaux la semaine dernière. D'abord parce que comme Arnaud l'a dit, eh bien l'Amstel c'est plus de 3000 mètres de dénivelé, donc c'est pas du tout le même terrain que Paris-Roubaix ni que le Tour des Flandres. Ça monte, ça descend sans arrêt, des virages à droite, à gauche, 33 bosses répertoriées. Donc voilà, Mathieu, il peut gagner, il est le favori. Il est sur un pic de forme incroyable, mais à un moment donné, le pic de forme, il va peut-être aussi s'estomper. Je sais pas quand. J'espère pas, parce que j'ai envie de le voir la semaine prochaine bagarrer face à Pogacar. Mais je me dis que il y a peut-être justement, de par cet affrontement qui vient, est-ce qu'il aura envie de gagner aujourd'hui? Bon, il est chez lui. Il rêve de gagner.
Pascal.
Mais bon, Cosnefroy. Tu me laisses finir, oui.
Cosnefroy.
Là, c'est un tunnel.
Au bout de 18 minutes, je pensais que tu avais terminé. Oh là là, non. messieurs.
On donnera notre avis la semaine prochaine.
J'aimerais qu'on laisse Christophe terminer, s'il vous plaît, les GG. J'aimerais. Soyez sympa avec Christophe. Non, arrête.
Je voulais juste faire une chute, mais je l'ai oublié. Je l'ai oublié.
Mais en fait, je suis sûr que mes collègues femmes vont être d'accord avec moi. Quand Christophe prépare ses sujets, alors là, il est crédible. Voilà. Bon, bravo Christophe. Ce que tu nous as dit là, c'est exceptionnel. Je te reconnais bien là. Non, en fait, moi, je vois pas pourquoi Cosnefroy, il aurait pas le droit d'être ambitieux, tout simplement, même si Van der Poel est l'épouvantail chez lui, aux Pays-Bas, pour cette Amstel Gold Race. Je pense qu'il est bien sûr favori, mais il y a non pas des faire-valoir. Et puis Christophe disait tout à l'heure que la course est difficilement maîtrisable comme les dernières, parce que là, les dernières, ses équipiers ont écrasé la course. Et puis il est parti chaque fois à 50 ou 60 bornes de l'arrivée, faisant valoir sa puissance. Là, c'est plus difficile à contrôler. S'il veut mettre un rythme d'enfer avec son équipe dès le début, il va peut-être perdre des équipiers, il va peut-être se fragiliser. Donc c'est là l'interrogation de la course. Et Cosnefroy, comme tu l'as dit, Christophe, il me semble être dans la forme de sa vie.
Ben,
il a raison. Oui. Il a raison d'être ambitieux.
C'est vrai que là où Marie. Je te suis, Mathieu Van Der Poel, la semaine dernière, nous a montré à quel point tactiquement quand même il était un peu fragile. J'ose le dire. Il a quand même lancé des trucs la semaine dernière qui nous ont laissé penser que c'était pas le grand tacticien, en tout cas pas sur le Paris-Roubaix la semaine dernière. Ça pourrait être sa faille.
Tu peux payer quand même.
Alors ça finit par payer parce qu'il est une jambe au-dessus des autres et que
mais oui mais parce que dans ce type
de tactique qu'il a fait la semaine dernière
il s'est isolé avant à la Trouée d'Arambert, il s'est isolé, il a largué tous ses compatriotes, il a dû retourner derrière les chercher, enfin c'était quand même
il les a mis dans le rouge,
mais non mais c'était pas c'était un test,
non franchement il a couru n'importe comment, ouais alors ouais d'accord,
je comprends pas, il a couru n'importe comment, il a fait la plus longue échappée de l'histoire de Paris-Roubaix.
Oui non mais d'accord, il est au-dessus de tout le monde physiquement, c'est ce que je vous dis, pas de soucis. Maintenant, je me dis que sur une course avec 33 bosses, peut-être qu'il peut se gourer, peut-être qu'il peut ne pas faire les bons choix, peut-être qu'il peut attaquer à des moments où c'est pas le bon. Enfin, jusqu'au bout, quand même, on s'est dit, tiens, peut-être qu'il pourrait faire une fringale, ou enfin, il est quand même au-dessus de tout le monde, mais il n'est pas imbattable. Et moi, je suis hyper heureuse qu'un mec comme Cosnefroy se dise, c'est prenable. Un bon objectif en sport de haut niveau, c'est un objectif difficile, mais atteignable. Et là, aujourd'hui, c'est difficile,
c'est ça va être difficile,
mais ce sera atteignable. Et donc, on sait jamais sur un malentendu. Ça peut marcher.
Non, mais surtout que si je puis me permettre, vous l'avez rappelé très justement, il y a 33 bosses. Comme je vous le disais, ce sont vraiment, quand je vous parle de routes toutes petites qui tournent dans tous les sens, c'est des circuits que même les organisateurs peinent eux-mêmes à comprendre. Enfin, vraiment, faut quand même très très bien étudier le parcours pour bien aborder l'Amstel Gold Race. Ce que je veux dire par là, c'est que l'an passé, par exemple, Tadej Pogacar avait chuté sur Liège-Bastogne-Liège. Il n'est pas à l'abri de ça, évidemment, personne ne souhaite à Mathieu Van Der Poel de chuter, mais on n'est pas à l'abri de ça. Ce sont des courses qui sont extrêmement rapides, qui sont extrêmement dynamiques sur des routes, je vous le dis encore une fois, qui tournent beaucoup et donc qui sont sujettes à tout un tas de faits de course, que ce soit des chutes ou que ce soit des groupes qui se scindent en deux avec du vent qui change dans tout
le monde. De choix à faire, c'est exactement
oui,
ça.
Oui. Bon, bah, ça après, il a prouvé par le passé que les bons choix, il avait su les faire sur l'Amstel Gold Race puisqu'il s'était imposé en 2019. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que Benoît Cosnefroy, alors. Dans la forme de sa vie, je tempérerai un petit peu parce que oui, certes, il vient de gagner la Flèche Brabançonne, mais il avait quand même réalisé quelques saisons fort sympathiques aussi auparavant et ça reste pas sa plus belle victoire hein, en cyclisme professionnel. Mais Benoît Cosnefroy, oui, je pense que lui, vraiment, avec le Koberg à 2 km de l'arrivée et une pente à 11%, il a tout à fait les moyens de venir s'imposer. C'est un bon sprinter, il a une bonne pointe de vitesse, il va juste falloir être fort. Je vous rappelle que c'est quand même une course de 250 km, donc voilà, c'est vraiment réservé aux très 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 costaud et au-delà de la tactique, 250 km, c'est quand même la fameuse sixième heure de course et c'est là où on voit ceux qui peuvent gagner ou pas.
Le mot de la fin pour toi, Sarah, on t'a pas entendu, vous êtes quasiment tous d'accord.
Oui, je suis d'accord. En fait, la petite éclaircie au-delà des propos de Cosnefroy qui les délivre ouvertement en se positionnant comme un prétendant, il y a l'histoire de cette tactique qu'on a commencé à l'aborder avec Marie. Arnaud, je voulais ton avis aussi, c'est-à-dire que autant les Flandriennes permettent de mettre la tactique qu'adore Van den Poel, c'est-à-dire de tuer, de partir des dizaines de kilomètres tout seul et de faire des échappées tout seul. Autant là, tu viens de le dire, les tracés de ces courses ardennaises et comme la course d'aujourd'hui, elles vont pas lui permettre de mettre sa tactique habituée dans laquelle il est confortable. Et donc, je trouve que c'est là où finalement, il y a peut-être une brèche dans laquelle certains prétendants, parce qu'il y a dans une course, il y a toujours les favoris et les prétendants.
Sincèrement, s'il est plus fort,
S'il est plus fort, il la tuera
comme quoi qu'il arrive. Pogacar l'avait fait l'an passé. Il était tellement une jambe au-dessus de tout le monde. Pidcock, qui avait fait troisième, avait terminé à plus de 2 minutes. Mmh. Donc, si vraiment il est plus fort, il y aura même pas de débat. Mais voilà. Après, c'est sûr que si le niveau est plus dense qu'il ne l'avait été l'an passé, avec Pogacar tout au-dessus et les autres bien derrière, ce sera peut-être un peu différent.
Van der Poel gagnant ou non, Arnaud?
Ah bah moi je sais pas, Christophe.
Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense qu'il va gagner.
Je pense aussi qu'il va gagner, mais après c'est un peu facile à c'est un peu facile de le dire, mais il est tellement favori. J'aimerais que Cosnefroid puisse se mêler à la lutte. Parlons. N'oublions pas quand même la présence de Matteo Jorgensen, Thomas Pidcock, Juan Ayuso et voilà.
La réponse en tout cas dans l'après-midi avec toi, Arnaud, qui commentera cette course en direct. On va se régaler évidemment l'épouvantail Van der Poel et tout le reste du peloton qui souhaitera le battre. Amstel Gold Race au programme, entre autres sur RMC cet après-midi. Merci beaucoup, Arnaud. À tout à l'heure. Les grandes gueules du sport dominical reviennent dans un instant. Le temps de mettre la main sur cette satanée zapette.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
Les grandes gueules du sport dominical, de retour sur RMC. On est en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Pascal Duprat, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Marie Martineau. À 11h, comme d'habitude, on passe la seconde. Ce sera autour des reports de matchs en Ligue 1, vous l'avez remarqué ce week-end. Ils agacent de plus en plus de monde, notamment évidemment chez ceux qui ne disputent pas la Coupe d'Europe. Mais d'ici là, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Le principe, vous le connaissez, je vous donne une info, elle vous intéresse. Vous nous dites pourquoi elle ne vous intéresse pas. Inutile d'en dégoûter les autres, vous n'avez pas le droit à la parole. Si elle n'intéresse personne, on la zappe, on passe à la suivante. On démarre avec La Rochelle et l'UBB éliminés de la Champions Cup. On s'en fout pas, Sarah Pitkowski.
On s'en fout pas.
Marie Martineau.
Je m'en fous pas.
On s'en fout pas. Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Christophe Cessieux.
Moi non plus.
C'est une barquette, comme on dit, chez nos amis de la Belote. Le Stade Toulousain qui affronte Exeter aujourd'hui est le dernier représentant français à pouvoir atteindre les demi-finales de la Champions Cup, l'équivalent de la Ligue des Champions en rugby. Hier, La Rochelle, double tenant du titre, s'est lourdement incliné face au Leinster, 40-13. Un peu plus tôt, c'est Bordeaux-Bègles qui s'était fait battre sur sa pelouse de Chaban-Delmas par les Harlequins. Une défaite d'un point, 42-41, au terme d'un match complètement fou. Toulouse-Exeter, c'est à 16h. Ce sera suivi sur RMC avec l'inénarrable Wilfried Templier au commentaire. Christophe Cessieux, pourquoi on s'en fout pas?
On s'en fout pas parce que c'est la fin d'une époque pour La Rochelle qui vivait depuis deux saisons qui surfait sur cette Coupe d'Europe et qui là est tombé sur un os, le Leinster, qui cette fois-ci en a eu marre de se faire marcher sur la tête par les Rochelais. Maintenant il va falloir se retourner pour les Rochelais. On sait que l'objectif principal c'est d'aller chercher le bouclier. Une fois que t'as plus la Coupe d'Europe, ils ont jamais décroché le bouclier de Brennus. Et il va falloir se les fader maintenant.
Justement, merci pour la passe, Christophe. On va écouter Grégory Aldrit, le capitaine Rochelais, après la rencontre. Désormais, focus top 14.
Il y a quand même des gros compétiteurs et donc du coup ce genre de défaite en quart de finale, il faut l'accepter. On l'a dit, on n'a jamais gagné le top 14 non plus, donc la motivation va revenir tout seul. Maintenant on a su se relever après plusieurs échecs, on a encore en tête l'échec aussi en finale l'an dernier, donc la motivation elle est toute trouvée et maintenant on veut revivre des moments comme on a pu vivre sur les deux dernières saisons.
Voilà, les Rochelais qui ont un bel objectif, un premier bouclier de Brennus après avoir conquis deux fois la Champions Cup. On accélère un petit peu, désolé les copains, mais pour avoir le temps de traiter une autre information. Deuxième info de ce zapping, Raphaël Nadal qui va faire son retour sur les cours. On s'en fout pas. Sarah Pitkowski.
Je m'en fous pas.
Ça m'aurait étonné. Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Pascal Duprat ne s'en fout pas, Marie Martineau.
Est-ce que si je dis je m'en fous pas, j'aurai le droit de parler ou quoi? Parce que là,
voilà, fais pas ta Christophe Cessieux.
J'allais le dire, Marie.
Fais pas ta Christophe Cessieux. Marie Martineau ne s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Moi, je m'en fous, j'attends de voir quand tu vas jouer, quoi.
On fait un débat par semaine sur Nadal.
Attendons de voir ce qu'il a dans les tripes et dans les muscles avant de parler, quoi.
On ne l'a plus vu sur un court, en effet, en tournoi officiel depuis sa défaite en quart de finale à Brisbane en tout début d'année. Il avait déclaré forfait à Monte-Carlo cette semaine. Il sera bien sur les courts à Barcelone, dont le tournoi débute demain. Présent lors du tirage au sort, Rafa a donc appris à cette occasion qu'il serait opposé mardi à l'Italien Coboli, 63e joueur mondial. On précise qu'à force de ne plus jouer, l'Espagnol de 38 ans est retombé à la 646e place mondiale. Bon, il s'est imposé 12 fois à Barcelone. Il connaît bien la maison.
Il a plus de muscles.
Sarah, pourquoi on s'en fout pas?
On s'en fout pas. C'est pas tant qu'il repousse son retour et qu'on se demande si finalement il va pouvoir revenir véritablement. C'est plutôt sur les images de son entraînement à Barcelone qu'on est un petit peu surpris, choqué. C'est la physionomie de Nadal qui a totalement fondu.
Il est tout maigre.
Il est devenu effectivement très amaigri. Ça pose des questions au niveau des bras, au niveau des jambes. Alors, est-ce que c'est parce que il a ses problèmes aux genoux et qu'il doit perdre du poids pour avoir moins de poids pour se déplacer? Est-ce qu'il y a un autre pépin physique? En tout cas, sur son état physique visible, c'est pas rassurant pour un Nadal qui, quand il joue sur terre battue, a besoin de beaucoup d'énergie. Il a un jeu qui est très sollicitant. Donc j'attends de voir s'il va rentrer sur le court et je me demande s'il n'est pas en train de faire définitivement une petite tournée d'adieu.
Pascal Duprat, voilà. Pourquoi on s'en fout pas?
Parce que moi je rêve de le voir à Roland encore une fois, c'est tout. Simplement.
Voilà, merci Pascal. J'aime bien la concision. Quand on court derrière le temps, c'est sympa d'avoir des grandes gueules qui respectent un petit peu le chrono. T'as quelques secondes de plus pour développer, Pascal.
Non, mais parce que ce joueur-là, ou Roland Garros sans lui, c'est pas Roland Garros. Donc voilà, moi je me prends à rêver de son retour. Je dis pas qu'il va être performant, mais j'aimerais qu'il soit bien inscrit au tableau de Roland Garros. Donc le fait qu'il soit à Barcelone, j'espère que oui. Je suis comme Sarah. J'ai vu des images où je me dis le garçon il a mis un cadenas au frigo, ou soit il y a un autre problème athlétique, ou soit, comme tu l'as très bien dit Sarah, il doit perdre du poids pour soulager son articulation vieillissante. C'est peut-être sûrement ça, ou opérer. Donc voilà, moi j'espère tout simplement. Je suis toujours un rêveur. Moi j'aime rêver. Je suis content d'être ainsi, de rêver.
Qui n'aime pas rêver, Pascal, surtout en sport. Marie, toi aussi, ça te fait rêver Nadal à Roland?
Pas du tout. Moi, c'est juste qu'à l'instar de Sarah, j'adore avoir raison. Et il y a quelques semaines, on avait fait un débat. C'était parce qu'ils étaient en Australie à ce moment-là. Et c'était le grand retour de Nadal. Et tout le monde autour de la table était là, il va revenir, il va éclater tout le monde. Il va encore faire grand chelem, tout ça. Vous allez voir, il va pulvériser Roland Garros et tout. Et moi, j'émettais des doutes quand même quant au fait qu'il soit physiquement prêt et que ça tienne encore la route à son âge avec tout ce qui s'est enfilé. Et
enfilé
comme dose d'entraînement.
Merci.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et donc voilà, j'avais a priori comment on dit déjà, raison.
Ouais. Ouais.
Voilà, bon, Nadal de retour sur les courts, enfin, serait-on tenté de dire, ce sera à Barcelone cette semaine, opposé, je vous le disais, à Coboli, l'Italien 63e joueur mondial. L'actu du tennis, c'est quand même la finale, aujourd'hui un petit peu surprise, à Monte Carlo, 15h, pas de Djokovic.
Tout ça à cause d'une faute d'arbitrage,
mais un Casper Ruud, Tsitsipas, je précise aux esprits chagrins qui pourraient nous accuser de faire des choix un petit peu discutables sur le conducteur.
Ouais. Moi, je suis sans... le premier.
Si nos grandes gueules étaient un petit peu plus disciplinaires, on aurait eu le temps de parler de Villeneuve-d'Ascq.
C'était moins bavard, peut-être.
Oui, comment se fait-il qu'on ne parle pas de Villeneuve-d'Ascq?
Voilà, mais on est sur les
réseaux sociaux. De l'OFB, bien, c'est quand même
voilà,
dingue, ça.
Eh bien, c'était la troisième info du zapping. Villeneuve-d'Ascq en finale de l'Euroleague féminine de basket.
Bravo.
Voilà, bravo. On leur souhaite bonne chance. C'est à 18h aujourd'hui. Et nul doute qu'on suivra. On jettera un œil et une oreille sur cette rencontre. On aime tous les sports, toutes les disciplines. Et oui, avant de se faire insulter, on avait prévu d'en parler. C'est terminé pour ce zapping des grandes gueules du sport dominical. 10h56, vous restez bien avec nous. On revient dans un instant à 11h. On passe la seconde. Pourquoi reporter les matchs de Ligue 1 puisqu'on est incapable de gagner une Coupe d'Europe? C'est la question qu'on va poser au GG. On en parle dans quelques minutes à peine. Vous ne bougez pas.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.